pense la plupart d'entre vous connaissent, et donc de voir comment Nunvult de l'écrit est en train maintenant d'envahir les écrans.
Oui, voilà. C'est long, hein, mais
donc, on va dire. Avec,
ça serait intéressant de savoir qui connaît pas le donjon Nunvult, comme ça je pourrais savoir. Ah voilà, il y en a un.
Deux.
Comme ça, est-ce que je sais ce que j'ai besoin d'expliquer?
Il va falloir que tu changes ce que tu avais prévu.
Ouais, j'avais prévu de rien expliquer du tout, donc c'est foutu. Bon, alors pour faire simple, donc le donjon de Nunvult, c'est une aventure multiplateforme, une aventure multimédia qui existe depuis 13 ans maintenant, qui est née sous forme de feuilleton audio que j'ai écrit et enregistré et joué moi-même, et qui a été décliné par souvent les hasards de la vie d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment un plan que j'avais prévu, sous forme de bande dessinée. On a les romans que j'écris qui évidemment sont c'est moi qui est mon support préféré puisque c'est une espèce de liberté totale. On en a parlé hier dans une autre table ronde. Et puis évidemment comme je suis un joueur et Donjon de Nunvult qui est né du jeu et non pas juste de l'univers fantasy, c'est né du jeu basé sur les univers fantasy ou inversement, puisque ça se nourrit un peu l'un de l'autre. On a un jeu de rôle gratuit, on a un jeu de plateau. Et là donc on a eu une proposition il y a 4 ans de faire une série animée télévisée avec donc ses joies et ses peines. Nous on a choisi d'avoir que les joies, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi et d'écrire ça correctement en restant dans l'esprit de la série et avec le temps original qui est donc moi.
Voilà. Alors là tu étais quand même un peu vite, mais peut-être qu'il serait intéressant d'abord de savoir comment, à partir de ce qui est au début, quelque chose qui est distribué gratuitement sur le net et qui est fait vraiment pour le plaisir, comment est-ce que de là on part pour arriver à ce qui a été qualifié de phénomène éditorial dans la bande dessinée? Est-ce que je crois que le premier album est combien, 25 000 albums vendus instantanément, en faisant la fortune d'un petit éditeur de BD?
Oui, alors le fait. L'histoire de l'édition, parce que bon, moi donc j'ai toujours pensé que j'étais un auteur maudit, avant même de me poser la question vraiment, mais j'ai diffusé Donjon de Nunvult en audio gratuit sur internet, tout simplement parce que j'avais pas envie ni de chercher un éditeur, d'essayer de convaincre un éditeur, et je pensais pas que ce que je faisais pouvait intéresser des gens. Donc je me suis dit, bah c'est bien, j'ai un site, je fais des fichiers audio, je fais mes conneries, je les mets dans le site, et ça intéresse des gens ou pas. Oui, c'est avéré que ça a intéressé beaucoup de gens. Et donc, à la suite de ça, au bout de quelques années, j'ai ma dessinatrice, qui à l'époque n'était pas ma dessinatrice, mais qui m'a dit ah, viens, j'aime bien ce que tu fais, on pourrait faire un album dessiné. De là, elle m'a branché avec un éditeur. On a fait un premier tome, et le premier tome, il a été écoulé en 72 heures. Donc, au niveau, au niveau de l'édition, c'est quand même un très bon score. Parce que tout le tirage, le livre est sorti un jeudi, le samedi, il n'y en avait plus. Donc le dimanche, l'éditeur m'a dit « C'est la panique !» Voilà, donc c'était... et en plus, ce qui est très intéressant dans l'idée, c'est que mon nom de produit, on ne s'en connaît pas un, puisque ça n'avait pas été pas, est absolument pas commercial, puisque la plupart des gens n'arrivent pas à le prononcer. Donc, le donjon de Nunvult, bon, maintenant, évidemment, les gens qui le connaissent depuis 13 ans, ils connaissent bien, mais quand c'est sorti, tu parles le phénomène éditorial, c'était en fait un truc que les gens venaient acheter sans connaître le nom. C'était quand même particulier. Donc tu te retrouvais dans les librairies où les gens ils disaient « Bonjour, je voudrais acheter la tourelle de Blavenflaff. » Ou alors « La tour de Nuremberg aussi. » On a eu. Ça, c'est des libraires qui m'ont raconté. Et en fait, ils savaient toujours ce que les gens cherchaient. Ils cherchaient le donjon de Nunvult. Et en fait, à l'heure actuelle, encore, les gens qui font des recherches sur le net, ils arrivent à faire 6 fautes juste dans le nom de Nunvult, tellement c'est pas user-friendly. Donc voilà. Et en fait, cette BD, le tome 1, maintenant, il a dépassé les 250 000 exemplaires, je crois. Et il continue d'être vendu. Il y a des gens qui découvrent la série comme ça. Mais les épisodes originaux en audio, en MP3, etc., sont toujours gratuits dans le site.
D'accord. Et donc, alors, vous en êtes à 16 albums maintenant, je crois.
Oui, c'est, on a une dessinatrice très motivée. Voilà, elle travaille beaucoup, on fait un ou deux albums par an. Et elle enchaîne et travaille. Son dessin a beaucoup évolué depuis Thomas jusqu'à maintenant. Mais comme on sait, il ne faut jamais trop se pencher vers le passé quand on est dessinateur, parce que sinon tu ne fais que recommencer. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Hein. On en a parlé aussi hier avec, Olivier Perru et Pierre Dubois. Tu ne peux jamais remettre en question ce que tu as fait dans la BD, parce que sinon tu ne sors jamais rien. En fait. Mais donc voilà, effectivement, on a 16 albums, enfin 14 albums de la série originale, 3 hors série. Et donc moi, du coup, je travaille sur les romans tout seul avec la réédition d'octobre, qui est une grosse base de travail pour tout le reste.
Parce que donc maintenant, c'est aussi 4 romans.
Oui, 4 romans lourds, qui font mal à la tête quand on tape avec.
Oui, mais par contre, qui ne font pas du tout mal à la tête quand on les lit, parce que c'est vraiment un plaisir.
Merci.
Et on lit beaucoup. Enfin, je pense que je presque des convertis ici. Et donc, le donjon de Nelbeuf, dans son entreprise de conquête du monde, c'est aussi un jeu de rôle.
Oui, un jeu de rôle gratuit que j'écris moi-même, qui prend beaucoup de temps. Mais c'est très gratifiant parce que ça permet d'avoir des retours de gens qui réécrivent l'histoire à leur façon en faisant des parties de jeu quotidiennement, parce qu'il y a quand même un peu plus de 10 000 joueurs de ce jeu, en fait, dans la francophonie. C'est le moment où je dois jouer des claquettes.
Voilà, exactement. Désolé, on est vraiment interrompu par le petit personnage qui tient le stand pendant que je suis ici. Désolé. Donc, le jeu de rôle.
Oui, oui, donc ça.
Mais qui se décline à la fois sous la forme papier et sous la forme électronique, non ?
En fait, il est diffusé électroniquement, c'est un jeu de rôle papier à l'ancienne, mais on peut le jouer en version électronique, donc en ligne, avec des copains à distance, ou on peut le jouer sur table comme un jeu de rôle normal. C'est une énorme somme de travail au niveau de l'écriture, mais en même temps, ça pose des bases pour articuler tout le reste. Et d'ailleurs, bon, c'est dommage qu'on n'a pas le manuel avec nous, mais parce que en fait, c'est le sujet de la conférence, c'est quand même de l'écrit à l'écran. Et on se rend compte, quand on est écrivain de littérature, que en fait, pour passer à l'écran, il y a tout un tas de processus casse-bonbons qui font qu'on aboutit très souvent d'ailleurs, à n'importe quoi. C'est ce que nous, on essaye de ne pas faire. Et pourquoi on aboutit à n'importe quoi ? Puisque dans le processus de décision des gens qui font de l'audiovisuel, souvent, on vire l'auteur original. Alors, pour ceux de vous qui regardez du cinéma américain, vous êtes souvent en train de vous poser des questions sur, quand vous voyez un film issu d'un livre, vous vous dites, bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, alors je peux en citer quelques-uns, mais par exemple, Je suis une légende. Quand vous avez, voilà, hein, ça fait rire, mais quand vous avez lu le livre, vous dites, mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le film n'a rien à voir avec le livre ? Voilà. Alors c'est tout simple, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ne veulent pas de l'auteur original, parce que c'est un casse-couille. Donc nous, c'est ce qu'on n'a pas voulu faire avec notre série. Donc Emmanuel, qui n'est pas là. Emmanuel, bonjour ! Non, il est peut-être perdu. Emmanuel est directeur d'écriture d'une équipe de 7 scénaristes, qui en fait devait reprendre tout ce que moi j'avais écrit pour faire des épisodes. Alors, on travaille, tu parlais de la gratuité, moi je travaille sans aucune contrainte quand je fais de l'audio. C'est-à-dire que un MP3, je le mets gratuit dans mon site. Qu'importe s'il fait 3 minutes, 6 minutes, 12 minutes 50, 24 minutes, 30 minutes, je le coupe en deux, j'en ai rien à cirer. De toute façon, les gens y téléchargent ou pas. C'est pas important, s'ils en ratent un, eh ben, tant pis pour eux. Quand on travaille gratuit, on travaille sans contrainte. Et sur le format littéraire, c'est un peu pareil. Quand on écrit un bouquin, si on a envie de mettre une scène, on la met. Quand tu es dans l'audiovisuel, c'est pas ça. Déjà, tu as envie de mettre une scène, il y a toujours un pet de couille qui fait non, mais ça coûte cher. Ou alors, ah oui, mais non, là, on peut pas mettre ça. Ah oui, mais non, là, faut aller à tel endroit pour filmer, etc. Donc, ce qui donne des trucs complètement aberrants dans certaines. Mais bon, en fait, le fait que moi je participe à l'écriture, je suis à la validation de toutes les écritures de tous les épisodes, du coup, ça donne une cohérence de l'ensemble de la série audiovisuelle basée sur l'écrit.
Mais on va peut-être revenir sur la série audiovisuelle après, parce que c'est effectivement le dernier développement. Mais avant, je pense qu'il serait bon quand même qu'on parle aussi d'un autre développement qui a été très important. C'est tout l'aspect musical de Noël Beuk, avec le Noël Band, tous les concerts, les CD audio, il y a 4 CD, je crois, oui. Déjà. Et puis tous les concerts,
on a dû faire entre 120 et 150 concerts. Alors ça a fait partie des trucs accidentels du donjon de Buck. Alors j'ai déjà, donc la BD c'est accidentel, parce que moi c'est quelqu'un qui est venu me dire tiens, ça serait bien qu'on fasse de la BD. Moi j'y croyais pas du tout, hein, parce que c'était un milieu que je connaissais pas. J'ai suivi la personne parce que j'avais un bon feeling avec et tout, ça s'est révélé que c'était une très bonne idée. La musique, c'est complètement accidentel. Un jour, j'avais envie de faire un truc, je me dis, bon, tiens, j'ai des instruments, je sais pas chanter, c'est pas grave. J'ai enregistré le Troll Farceur, j'ai écrit la chanson en une heure, j'ai enregistré en une heure et demie. Donc c'est un processus musical vraiment très rapide. Et j'ai mis ça en ligne, et alors là, c'est parti, boum, comme une fusée partout sur les forums, etc. Et au bout de quelques semaines, on m'a dit « Ouais, il faut que tu viennes chanter cette chanson à tel endroit. » Alors, se déplacer pour faire un concert quand on n'a qu'une chanson, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est ce qui m'est arrivé. C'est arrivé sur une convention de jeux de rôle à Amiens, où j'ai fait mon premier concert, et j'avais deux chansons, parce qu'entre-temps, je me suis forcé à en écrire une autre. Je me suis dit, quand même, j'ai arrivé avec deux chansons, et en même temps, j'avais amené un traditionnel breton, histoire de meubler, entre les deux. Bon, et donc du coup là-bas j'ai rencontré Ghislain du Naël Band, notre percussionniste depuis ce temps-là. Et donc ça c'est arrivé, donc on fait ce morceau, voilà, convention, on chante un truc, point barre. Et un jour on nous a dit, pourquoi vous venez pas faire un vrai concert avec plusieurs morceaux dans un événement. Donc c'était le salon du monde du jeu, le salon de rôliste. Encore une fois complètement accidentel, on arrive, on pose les amplis sur la moquette. C'était vraiment pas organisé, mais du tout. On a joué au milieu du salon, vous imaginez. Il n'y avait pas de scène, les gens, ils mettaient debout comme ils pouvaient. Et là, on a dit, mais c'est catastrophique, on n'avait même pas répété. Moi, j'ai invité des potes, par téléphone, j'ai envoyé des mails. On a dit, on va jouer ça, ça et ça, je t'envoie les morceaux. Les gens se sont rencontrés, pour certains, le jour du concert. Vous imaginez à quel point c'est improvisé. C'est, bonjour, moi je suis de la flûte. Ah, moi je suis percussionniste. Voilà, donc c'est le début d'une allemande, c'est ça. Et à quel point c'est accidentel. Donc nous, on se regarde, on fait bon, c'est pas grave, il y aura personne. Et là, on se retourne et il y a 400 personnes. T'as pas l'impression déjà. Ouais. Bon, alors c'est pas grave, on dit si on échoue, les gens vont nous oublier. Donc on joue nos trucs, plus ou moins bien, avec un son pourri, pas organisé. À la fin, on est épuisé, alors les gens étaient contents. Et là, il y a des types qui viennent nous voir et nous disent c'est terrible votre concept. C'est trop bien fait et tout. Et là, ils nous disent, on vous invite à telle date, on vous invite à telle date, on vous invite à telle date. On a eu plein d'invitations ce jour-là. Et le Naël Band est né ce jour-là. En fait, on a dit, mais il faut qu'on écrive des chansons. On ne peut pas aller faire des concerts avec rien. Et donc, voilà, au fur et à mesure, on a écrit plein de trucs. Maintenant, on fait des concerts qui peuvent durer 3 heures. On a fait de la route partout, j'allais dire autour du monde, mais parce qu'on est allé au Québec. Voilà, c'est le principe d'un truc accidentel. Et en fait, la musique rôliste, c'est un truc dont les gens avaient vraiment besoin, envie, et on ne savait pas, donc on l'a fait par hasard.
Quelle est l'histoire derrière la sponsorisation pour les marchands de chaussettes dans les concerts?
Non, mais en fait, à chaque fois que je balance un concept crétin dans le donjon de mon bloc, il finit par se transformer en espèce de phénomène. Alors, je vous donne un exemple, le poulet du donjon. Alors, le poulet, hein, voilà, ceux qui ont des trucs du donjon. Alors, pourquoi le poulet? Alors, le poulet, c'est vraiment un truc que j'ai mis dans le donjon, parce que je me dis, voilà, ceux qui ont joué à Dungeon Keeper, il y en a, par exemple. Voilà, pour Dungeon Keeper, on élève des poulets dans le donjon parce que ça nourrit des monstres. Donc, je me suis dit, c'est normal qu'un jour, on tombe sur un poulet. Alors, il y a une petite aventure autour de ça. On a fait une chanson sur le poulet. Et à un moment donné, j'ai introduit une espèce de chorégraphie débile qu'on a joué à Troll et Légende. Au Festival de Fantasy, il y avait 5000 personnes. Donc là, vous voyez, le chemin du Naël Band, quand même. Et en fait, ils se sont emparés de ce truc pour en faire un machin qui a pourri tout le festival. Parce que tous les groupes qui passaient, il y avait les fans de Donald Buck qui étaient là, qui faisaient poulet, poulet. Alors le truc, c'est qu'ils faisaient ça à des gens qui étaient. Qui parlaient allemand, anglais, des groupes d'autres pays, qui la regardaient comme ça. Et à un moment, il y en a qui est venu nous dire « What is poulet, 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 poulet ?» Et donc voilà, nous, on met en place des trucs comme ça. Et Chaussette du Nain, c'est une énigme toute faite que j'ai foutue dans un épisode. J'étais fatigué, voilà. Et c'est le truc qui me poursuit depuis 12 ans, voilà. Donc à chaque dédicace, il y a quelqu'un qui s'amène qui fait « Hé, Chaussette, tu veux mon niveau ?» Voilà. Mais bon, bah, c'est des trucs qui arrivent, voilà. C'est quand même pas mal accidentel, bonjour Daniel Buck. Mais pour l'instant, ce qui a le plus échappé à, nous, à notre emprise, c'est le poulet. Parce qu'on a quand même, maintenant, on a un dieu poulet de 2,50 m gonflable, qu'on amène sur les concerts juste pour que les gens puissent jouer avec. Donc on fait l'invocation en plein morceau. Voilà.
Bon, très bien. Donc on voit une série d'accidents finalement très heureux qui ont permis le développement de Noël Buck. Et donc maintenant, alors le dernier développement pour l'instant, donc, c'est le passage sur les petits écrans, ouais. Aussi quelques temps, avec des dessins animés.
Alors oui, d'ailleurs, ça m'intéresse peut-être de savoir comment c'est arrivé, parce que c'est également accidentel. Alors, pour une raison simple, c'est que moi, le visuel, je n'aime pas ça. Enfin, je suis un gros fan de cinéma.
Mais de nanar.
De nanar aussi.
Pas de vrai cinéma.
Mais si, je suis un gros fan de cinéma, et la télé, je n'aime pas ça. Alors, en fait, je n'aime pas ça parce que moi, de ce que je connais de la télévision, c'est plutôt ce qu'il y avait avant. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'audiovisuel, si on fait une courbe d'intérêt, en fait, dans les années 80, l'intérêt audiovisuel était au cinéma. Et maintenant, l'intérêt audiovisuel est dans les séries, en fait. Parce qu'il n'y a que les chaînes de télé qui investissent dans des trucs intelligents, à peu près, maintenant. Ça fait une espèce de courbe croisée. Mais bon, c'est pas le principe. Le principe, c'est qu'on m'a proposé de faire ce projet. Des gens sont venus me dire, voilà, dans Journal Buck, on pourrait faire de l'animation. Alors moi, j'ai commencé comme d'habitude par dire non. J'y connais rien, ça m'intéresse pas, j'aime pas la télé, c'est pourri. On va faire des trucs pour les enfants de 8 ans, donc j'ai pas envie. Là, on m'a dit, si, mais nous, on est motivés et on veut le faire correctement. Oh. Donc on a mis un an, on a fait un an juste de discussion. Réflexion sur le contrat, etc. Parce que dans l'audiovisuel, il faut savoir que plein de gens acceptent n'importe quoi, notamment parce qu'ils veulent faire de l'audiovisuel, alors que moi, j'étais pas demandeur. C'est un truc qui a vachement fait basculer, donc, je parlais du cinéma américain tout à l'heure, parce que les auteurs américains, anglophones, ils font un livre, on leur dit on t'achète les droits, c'est temps, et on veut plus entendre parler de toi. Donc c'est bien parce qu'ils ont de l'argent. Et après, le film sort, ils font « Ah, mais c'est pourri !» Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Moi, j'ai pas envie de ça, parce que de l'argent, j'en avais pas besoin. Et donc, qui bah non, en fait. « Ah, Emmanuel !»
Le voilà.
Le voilà.
Il est arrivé en courant.
Désolé. Bonjour. Voilà.
Bonjour. Salut, John. Donc, Emmanuel Poulain-Arnaud, qui est le directeur d'écriture sur la série.
Enchanté.
Qui a fini par arriver.
Ouais, galère, RER, tout ça. Bon.
Voilà.
Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon.
Du mal. Non, mais j'étais en train juste d'expliquer la genèse du projet. On a parlé de tout le reste déjà, donc voilà. Après, tu vas intervenir sur ton sujet. Donc voilà, le projet est né comme ça. Moi, j'ai pas fait de concession parce que je voulais pas faire de la série jeunesse, je voulais pas qu'on m'interdise de mettre ceci ou cela dans la série. Et puis, l'équipe qui a voulu lancer le projet était d'accord avec moi. Donc, on a fait du forcing partout. Et il s'avère qu'en fait, c'est possible. C'est chiant pour tout le monde, parce que c'est pour ça qu'on n'a toujours pas fini la série, notamment. On vous en parlera un peu, mais en fait, quand vous voulez financer Babar, par exemple, vous dites, c'est facile, la cible, c'est 4 à 8 ans. On a besoin de temps. Les gens, ils savent vers où ils vont. ils font, c'est pourri ou pas, on s'en fout, de toute façon c'est pour les gamins.
Et c'est pas mal en plus.
Voilà.
C'est pas mal, bah,
c'est joli.
Ouais, enfin bon, voilà. Que, j'en rentre pas dans le débat, mais le fait est que quand tu sais, quand tu as une cible définie, tu travailles pour la jeunesse principalement, tu dis voilà, on attend le machin, c'est temps, les gens ils donnent l'argent et tout, alors que nous, on est bizarre. Et on parle de jeux de rôle, on est pour un public de gamers. Alors les gamers, il y en a plein, hein. Le jeu vidéo, c'est une des industries mondiales les plus lucratives et les plus importantes, mais les gens, ils ne savent pas ça. Parce que quand on dit on s'adresse à des gamers, ils nous regardent comme ça. Ah oui, mais ce n'est pas les mêmes gens qui regardent la télévision. Enfin, c'est un peu comme ça. Donc voilà, nous, on n'a pas fait de concession. Et donc, ça se retransmet. Ça se retranscrit sur tous les aspects de la série, donc les aspects artistiques. Et notamment sur l'écriture, et c'est là que Emmanuel arrive. Tada !
Bonjour ! Et effectivement, on n'a pas fait du tout de concession, parce que, on a, comme l'a dit John, on a vraiment tenu à garder le ton bête et méchant de la BD, de la série audio. Donc, si on avait changé le ton et si on était allé plus du côté de Babar, eh ben, on se serait fait taper dessus, d'une part, et puis on aurait eu une série qui aurait plu à personne, au final. Donc, et comment on n'a pas fait ces concessions? C'est-à-dire qu'on a, on a poussé des portes, on a eu beaucoup, beaucoup de refus, donc beaucoup de chaînes évidemment, puisque toutes les chaînes, France 3, TF1, font du 5-10 en termes de cible, en termes d'âge. Et donc la seule chaîne qui a bien voulu nous accepter, bah, c'était Canal+, au final, Canal+ Family, parce que eux, ils ont une tranche d'âge, enfin, ils vont du preschool, Canal+ Family, jusqu'à, ils s'autorisent maintenant à aller vers de l'ado adulte, mais ils s'autorisent encore, enfin voilà, on est une des premières séries sur Canal+ Family à enfoncer cette porte-là.
Oui, et puis nous, en plus, en matière d'auditoire, on a quand même vraiment de tout, quoi. Puisque sur les concerts, ceux qui ont assisté à nos concerts, on a du 8 ou 80 ans. Donc ça, un tir de cible, c'est, on a le super vieux rôliste des années 70, on a les gens qui aiment juste la musique aussi, finalement, qui finalement se disent « Tiens, bah, je vais lire ce bouquin parce que je suis allé au concert et puis ça les intéresse. » Et c'est sûr qu'eux, ils sont intéressés par la série aussi, quoi. D'autant plus que voilà, le truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la série qui, eux, ont dû travailler dans le jeunesse pour diverses raisons, contexte économique, sociaux, etc. Et ils se retrouvent à écrire des choses pour les adultes que eux ils comprennent. Mm-hmm. Quand on écrit pour la jeunesse, on essaye de faire en sorte de faire des trucs pour eux, mais c'est pas forcément que ça nous fait rire nous, en fait.
Oui, c'est vrai que beaucoup d'auteurs de séries jeunesse, donc de cibles assez jeunes, écrivent vont vers la psychologie enfantine et écrivent des gags qui ne les font pas rire au final, mais qui vont vers du ludo-éducatif, c'est ce qu'on appelle. C'est de, ben voilà, on essaie d'amuser l'enfant tout en lui apprenant quelque chose, une espèce de petite morale de la vie. Alors là, pour le coup, le Donjon de Malbeuf, ça n'avait rien à voir. On va, en termes de morale, justement, on va à l'encontre de ça.
Bah, la morale du nain, elle est très bien.
Mais non, finalement, on s'y fait vite, en tout cas. Et donc du coup, il a fallu repenser l'écriture et aller chercher, pourquoi pas, des scénaristes qui n'étaient pas habitués à écrire de l'animation en France, au final. Donc c'est pour ça qu'on a réuni une équipe un peu éclectique. C'est-à-dire qu'on a eu, j'ai essayé de réunir un scénariste qui venait de l'animation, parce qu'il faut toujours avoir... la 3D demande beaucoup, beaucoup de contraintes et ça commence par l'écriture, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec de la 3D. Donc j'ai réuni quelqu'un qui, pour le coup, venait, a écrit beaucoup de séries 3D, mais j'ai réuni aussi, je l'ai réuni avec quelqu'un qui fait beaucoup de scènes, qui fait du stand-up, quelqu'un qui vient, qui était présentateur télé, un scénariste de cinéma. Donc j'ai fait une espèce de bouillabaisse de scénariste.
On va peut-être revenir là-dessus, parce qu'en préparant cette table ronde, je fais partie des gens qui sont totalement ignares en matière de technique, d'animation, etc. Donc j'ai découvert un petit peu ce qu'était la 3D très brièvement et tout. Donc vous commencez à évoquer ça, mais je ne suis peut-être pas le seul à ignorer quelles sont les différences pour, au niveau technique, justement, pour faire de la 3D plutôt que de la 2D. Mais peut-être avant pourriez mieux définir déjà, vous avez commencé à l'évoquer, votre rôle, puisque vous êtes directeur d'écriture, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en charge d'harmoniser tout ce qui est le travail des différents scénaristes. John me disait qu'on fait, il y a 9 scénaristes au total pour ces 9 épisodes, et vous avez commencé à...
Sur 52 épisodes, voilà. C'est-à-dire que certains ont commencé, puis sont partis, et puis d'autres sont arrivés. Donc en totalité, sur les 52, il y en a eu 9. Mais généralement, on faisait des tables de 5-6 personnes par semaine, mais on n'était pas en totalité 9 sur toute la série.
D'accord. Voilà. Et en établissant, je peux comprendre, une bible pour que tout le monde puisse être au diapason.
Exactement, ça commence par une bible, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec mon co-scénariste Sébastien Guéroux, on a tout bien lu et tout bien fait nos devoirs. Et on a essayé d'apprendre par cœur toutes les répliques cultes du Donjon de Nahuelbeuk avant de poser le moindre mot sur une feuille de papier. Et ensuite, on a écrit une bible littéraire. C'est-à-dire qu'il y a la bible graphique et il y a la bible littéraire. Donc on pose les bases pour que les scénaristes ensuite puissent s'y pencher quand ils ont des problèmes narratifs ou quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire qu'on décrit les personnages, leurs atouts, enfin un peu à la manière d'une description de rôliste, de personnage, de jeu de rôle.
Il y a des fiches de perso, ils ont fait des fiches de perso, c'est sympa ça.
Ouais, c'est ça, donc genre force plus 5, pourquoi, intelligent, pas intelligent, quelles conneries ils peuvent dire, quel est leur... En même temps, avec les personnages de Donjon de Nahuelbeuk, c'était très simple et en même temps très très pratique pour nous, parce que c'est le nain pense qu'à la thune et déteste les elfes, donc ça c'est une porte extraordinaire pour nous. L'elfe est complètement stupide, bon après tous les personnages sont complètement stupides. Ensuite,
ça c'est super. C'est stupide, c'est culturel en fait.
Ensuite on s'est permis 2-3 choses sur des personnages, on pensait que pour compléter la troupe, on était intéressé par le voleur particulièrement, on aimait bien le fait qu'il soit beaucoup plus transparent que dans la BD.
Mais en fait, vous l'avez écrit pour qu'il soit plus présent.
C'est ça.
Il est plus présent...
En étant transparent.
Mais en étant transparent, et ça c'est assez fort. Mmh. Parce que contrairement à moi, quand ils ont écrit, ils ont réfléchi. Alors que moi, je réfléchis pas en fait quand j'écris... Moi j'ai voulu écrire des concepts jeux de rôle. Donc j'ai dit dans une partie jeu de rôle, il s'est passé ça, ou alors dans une partie de jeu de rôle, il pourrait se passer ça. Donc j'ai écrit des trucs, alors il y a des trucs qui sont nuls, il y en a qui marchent bien, il y en a qui tombent à l'eau, il y en a qui sont cultes, voilà. Mais moi j'ai pas réfléchi, alors qu'ils étaient pleins, et en plus ils ont réfléchi. Donc ils sont venus avec des idées nouvelles sur l'écriture globale, donc là on fait la saison 1 et 2, qui sera la saison 1 de la série. Et en fait ce qui est bien pour les gens qui connaissent déjà le Donjon des Bleus, c'est que... Il y a ce qu'ils connaissent, mais ça représente quoi, 40% en fait de la série, en gros. Il y a à peu près 60% vraiment d'inédits.
Ben voilà, on a essayé de...
Le début et la fin sont identiques, on passe aux mêmes endroits, mais en fait, il ne se passe pas les mêmes choses.
Exactement, c'est la trame narrative, on a gardé la même chose. Ils ont une mission dictée par le commanditaire, et ils vont la récupérer au 30e épisode, et ils vont, durant les 22 derniers épisodes... traverser les terres de Fang pour rapporter la statuette à leur commanditaire. Mais effectivement, ils passent par Schnafon, ils passent par à peu près tous les lieux qu'on a dans la BD, mais effectivement, il ne se passe pas les mêmes choses d'une part pour apporter plein d'autres bêtises et plein de nouveautés pour les fans de la première heure, mais aussi pour les novices. Et puis, on a dû aussi adapter la chose pour les contraintes de l'animation.
Jean-Luc en parlait tout à l'heure. En fait, voilà, pour vous schématiser, moi quand je travaille, je fais un épisode, je dis tiens, là je vais mettre un Québécois. Voilà, c'est parce que moi je réfléchis pas. Vous voyez, je vais mettre un Québécois. Je téléphone à un pote Québécois. Allô machin, qu'est-ce que tu fais samedi? Rien. Tu viens enregistrer. D'accord. Le mec vient, j'écris son texte, il fait ses mots, il repart. Voilà, ça c'est moi. Alors après, dans la 3D, quand tu veux mettre un Québécois, là c'est pas pareil, parce qu'il y a toute une équipe qui doit designer le Québécois, ensuite qui doit donner le budget du Québécois, il faut trouver l'acteur qui fera le Québécois, et en fait...
Le Québécois coûte un bras. Oui.
Voilà, c'est ça. En fait, il coûte pratiquement le même prix qu'un personnage que tu vois pendant... Parce que là, c'est la grosse différence entre l'animation 2D et la 3D. Donc, dans la 3D, tu as une possibilité de réutilisation très très forte, quand tu fais un décor à un endroit, même super riche, bah, tu mélanges, tu remets à un autre endroit, tu récupères les bouts, ça c'est super. Et donc ça te fait très très beau décor, ça te fait des personnages riches, etc. Mais tout a un coût. Tu mets un verre, ça a un coût, etc. Donc tu mets un nouveau personnage, c'est d'ailleurs les pires parce qu'ils sont animés. Tu mets un nouveau personnage, ça a un coût. Donc moi je mettais des personnages comme ça. Tiens, lui il arrive, paf, il meurt.
Il y a une centaine de gobelins qui arrivent dans la scène.
Voilà. Alors les gobelins, c'est pas sympa parce que les gobelins, tu peux un peu les copier-coller. Mais moi j'ai mis plein de personnages comme ça parce que j'avais quelqu'un chez moi. En buvant un coup, tiens, tu me ferais pas des voix, allez hop, tu vas faire un personnage, ou alors c'est moi qui le faisais. Mais là voilà, c'est des trucs qu'on peut pas faire. Donc eux ils réfléchissent à. Bah, si on a un personnage, par exemple le Goldberg, eux ils l'utilisent plus que moi.
Parce que ça, ouais.
Moi ça faisait cher quand même, parce que le Goldberg il sort, il fait oh je vous aime pas tellement. Et puis hop, il se passe deux trucs, puis il rentre. Et là, effectivement, si tu regardes juste le niveau budget. Ça fait cher le Goldberg.
La dire de prod est emmerdée. Et d'autant que. Ah, donc voilà, du coup, sur la Bible, on a essayé d'imaginer les 52 épisodes à travers des petits pitchs de 5 lignes. Et du coup, dans lesquels on se disait, tiens, on pourrait réutiliser tel personnage. Tiens, on pourrait utiliser ce personnage. C'est-à-dire, on a beaucoup de vieux, par exemple. Donc on pourrait utiliser.
Le vieux, c'est mystérieux.
Voilà. On pourrait utiliser le Gildas pour en faire un vieux sage dans l'épisode. D'un temple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer les personnages du donjon d'Alvec comme des Playmobil, des personnages sur lesquels on va mettre des nouveaux accessoires, voilà, de manière à les réutiliser. Donc on ne pouvait pas tout se permettre et on ne pouvait pas reprendre tous les personnages de la BD du donjon d'Alvec. Je pense à Harry Potter ou ce genre de choses, des personnages qui sont trop marqués.
C'est Gary Topper, j'ai une
carte. Oui, voilà,
t'as pas le droit de dire les marques.
Et donc ça nous a restreint la chose, mais en même temps ça nous a permis d'arriver à une trame narrative assez intéressante, parce que de retrouver Goldberg, ça permet de créer un lien avec les personnages, ça permet de créer vraiment des relations assez intéressantes et plutôt drôles en fait. En revanche, il faut se rassurer, c'est qu'on utilise beaucoup de personnages malgré tout à travers ce système de Playmobil, et on en tue beaucoup.
Oui,
ouais. Ça, donc c'est vrai.
Voilà. Oui, parce que dans l'aventure, on meurt.
Et voilà, et ça, on voulait à tout prix le garder.
Par exemple,
il y a beaucoup de morts.
Par exemple,
tu
parlais des références, mais je pense que rien que l'épisode de Schnafon que j'ai fait, qui contient 14 références cinématographiques, aurait à peu près coûté le prix de la série, si on l'avait fait en vrai.
C'est ça, donc.
Parce qu'on retrouve, Doc et Marty, on retrouve Jay et Silent Bob, on a Terminator, on a Conan, etc. Et en plus, Marion, on l'a rajouté dans la BD. Ouais. Parce que justement, la 2D, c'est bien, tu fais un dessin une fois, ça ne te coûte pas plus cher. Voilà, la 3D, tu peux pas. Il faut modéliser. Nous, on a foutu Cobra dans la BD parce que j'aime bien Cobra. On a mis Bip Bip et Coyote parce qu'on les aime bien. Voilà, c'est Schnafon, c'est la ville à référence, mais nous, voilà.
Et du coup, on a dû partir vers une autre histoire à Schnafon. Ils vont à Schnafon, mais il se passe d'autres choses. Et on a dû aussi voir d'autres contraintes, c'est-à-dire que la 3D, il y a des choses qui paraissent anodines comme ça, mais qui sont très chères, notamment un personnage qui touche de l'eau, ça va tout de suite assez loin dans les coups. C'est-à-dire qu'il y a eu des épisodes, notamment l'elfe dans le lac, il a fallu qu'on soit malin pour qu'on ne puisse pas avoir le personnage qui touche à l'eau, et tout ça, parce que dès qu'il y a un personnage touche à de la matière qui n'est pas solide, en 3D, c'est hyper compliqué à faire.
Et on vous rassure, elle a quand même enlevé ses vêtements. Parce que je vois qu'il y en a qui ont déjà la petite goutte de sueur.
Perso, c'est mon épisode préféré.
Ah.
Et y a-t-il des poulets ?
Il y a des poulets, bien sûr. Alors du coup, là, on l'a bien réutilisé.
C'est un perso qui sera très présent.
Voilà, donc il y a évidemment l'épisode du piou-piou. Il y a aussi Bernadette qui va devenir un vrai grand personnage sur un épisode. Il y a beaucoup de poulets, il y a vraiment beaucoup de poulets qui sont pas mal trucidés. Il y a beaucoup, finalement très peu de survivants dans le donjon.
Bah oui, puis en plus, ils n'ont pas visité tous les étages.
En plus.
Très bien. Et. Alors là, vous êtes donc en train de faire cette adaptation en dessin animé. Est-ce qu'en même temps, vous avez commencé à envisager les droits pour l'étranger, pour pouvoir exporter Nahuel Beuk, parce qu'il n'y a pas de raison que seuls les pays francophones souffrent.
Alors, ça, c'est un autre producteur de réponse. Moi, je...
Ouais, bon, moi, j'ai quand même pas mal d'éléments de réponse.
Ah ben, je te laisse.
Dans le budget de la série, bon, faut savoir que sur une... les gens qui regardent des animations de qualité en 3D, ils ont l'habitude de voir des trucs comme les Pixar et autres. C'est des budgets énormes, hein, on n'est pas là du tout. Cela dit, par rapport à des productions cheap, on est quand même largement au-dessus aussi. Donc on se retrouve dans une tranche intermédiaire de budget qui fait que si on veut que la série elle soit viable, c'est-à-dire que les gens qui les font ne soient pas perdants déjà, ce qui est, voilà, parce que tout le monde doit être payé, etc., il faut envisager de partir à l'étranger. Et en fait, le jeu de rôle et le jeu vidéo, dont on s'inspire quand même pas mal, ben, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Il y a énormément de rôlistes aux États-Unis, dans les pays nordiques, etc. Donc il y a déjà une volonté de base de faire au moins en anglais. Ça, c'est en cours, ils sont en train de travailler dessus et tout.
Sachant que les premières voix en anglais, c'est très très drôle d'ailleurs.
Ouais, c'est, ben, même pour moi, c'est une redécouverte. Parce qu'il y a des trucs complètement anodins qu'on dit en français qui en anglais ils ont tout de suite la patate.
Bah, il y a plus de classe. En fait, la langue anglaise, finalement.
Ouais, en audiovisuel, ouais, ça marche mieux. Et bah, du coup, même moi qui connais ce que j'ai écrit, quand je vois en anglais, j'ai l'impression de voir un nouveau truc, en fait. Donc, ça sera sympa si vous avez le DVD, vous pourrez le voir en deux versions. Et on s'attend. Bah, moi, mon pronostic, c'est que ça va vachement marcher dans les pays anglophones parce qu'il y a beaucoup de rôlistes. Et que, ben, bizarrement, personne n'a fait avant nous. En fait, ce créneau vraiment spécifique, télévisuel, de qualité, en animation pour les adultes, sur le thème du jeu de rôle, ça n'a pas été fait. Il y a eu des trucs qui ont été faits. Hein. Vous connaissez peut-être la vieille série des années 80 qui s'appelle Donjons et Dragons pour les enfants de 8 ans. Non, ça vous dit rien ? Si, ça lui dit, lui, là-bas. Voilà, il en rit, il en pleure de rire parce qu'il se souvient comment c'était moche. Donjons et Dragons, c'était pathétique. On a eu les adaptations cinématographiques de Donjons et Dragons qui sont également pathétiques parce qu'ils ont été faits par n'importe qui ne savait pas ce qu'ils faisaient. Voilà, donc là, on va proposer un programme pour les releases, pour les joueurs et pour d'autres gens d'ailleurs, parce qu'on a des gens qui sont ni l'un ni l'autre et qui accrochent vachement à la série.
Bah, c'est ça, c'était le but de l'écriture au départ. C'était vraiment d'élargir le public et de ne pas s'adresser qu'aux rôlistes et qu'aux fans du donjon. Il fallait qu'on attire d'autres fans. Et donc, j'espère que le pari va être gagné.
Mais tout en gardant les fans originaux.
Tout en gardant, voilà, c'est ça.
Je leur expliquais tout à l'heure pourquoi.
J'ai pas mal de Dafalgan.
Voilà, moi, je faisais partie du projet parce que, justement, comme tu l'expliques souvent, moi, je suis garant de l'œuvre originale. Et c'est ce qu'on n'a pas souvent sur des ventes de licences ou autres sur des projets à l'étranger, où on perd l'œuvre originale dans le but d'obtenir plus d'audience. Donc nous, on a essayé de faire justement de garder l'œuvre originale, et éventuellement, eh ben, on aura plus d'audience quand même.
Voilà. C'est ça. Mais je pensais à un long métrage adulte qui fait référence au jeu de rôle et qui est suédois ou quelque chose comme ça. C'est très drôle, j'ai trouvé ça très drôle. C'est Ronald the Barbarian, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, là, qui est très adulte pour le
coup. Pour le coup, ça va être très très loin. Mais bon, voilà, il y a des choses qui se font malgré tout.
Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, là, on est sur c'est un film.
Oui.
Voilà, nous, on est sur de la série, etc. Donc, c'est un truc assez nouveau. Et effectivement, ils sont en 3D aussi.
Ouais, c'est ça. Pas de la très jolie 3D.
Oui, et en plus de ça, j'ai cru comprendre que la France est très en pointe au niveau de la qualité de l'animation en 3D. Par rapport même aux États-Unis, etc.
On a ce qu'ils appellent dans le milieu de la 3D la French Touch, ouais. Qui sont ces Français qui sont récupérés par d'autres pays, notamment beaucoup. Il y en a aux États-Unis, la Weta, on a récupéré quelques-uns, etc. On a des artistes français de la 3D qui sont ils ont noyauté toutes les sociétés de 3D, il y en a chez DreamWorks, il y en a chez Pixar, etc. On en a partout parce qu'on a un talent 3D qu'on arrive à faire en France aussi, sauf qu'en France, on ne nous donne pas l'argent pour le faire. On nous dit, voilà, vous faites babar, et puis voilà.
Mais là, on a la chance d'avoir des très très bonnes écoles d'animation en France, hein, avec en tête de liste les Gobelins.
Oui. Les Gobelins. En plus, ils ont vraiment connoté le bloc.
Oui, tout à fait. Et le chef storyboarder, d'ailleurs, Sébastien Vovo, vient des Gobelins.
Oui, oui. On pourra se foutre de sa gueule la prochaine fois.
Oui, c'est vrai. Bon. Il y a d'autres
On se coule déjà bien. T'es...
Oui, les gobelins, bien. On va peut-être passer, parce que je vois que le temps a passé très vite et qu'il est déjà, qu'il nous reste 10 minutes. Donc je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de questions, mais moi, alors avant qu'on passe aux questions dans l'assistance, j'en ai quand même une dernière. Maintenant, on voit donc que Nullbuck va envahir les petits écrans. Et l'étape suivante qui est le grand écran, Nullbuck à Bollywood.
Oh. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé que notre série passait très bien sur le grand écran.
Oui.
La semaine dernière, on l'a passé au cinéma de Bagneux. Donc la qualité est là, pour moi. Après, la distribution cinéma, c'est un autre truc en fait. Mais je pense que...
Will Smith dans le rôle du rangeur.
Ah non, mais en restant dans ce qu'on a fait. c'est... Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer après. Enfin, quand on lance une série comme ça, on a vu historiquement ce que ça a fait. T'as des séries qui étaient lancées pour être complètement anecdotiques, qui se sont révélées super cultes, et inversement, des trucs... où les mecs ils avaient des prétentions dingues et qui se sont pété la tronche du jour au lendemain. On sait absolument pas où on va. Si le Donjon d'Albuck fonctionne comme il a fonctionné dans la francophonie sur l'anglophonie, ça peut être énorme, vraiment énorme. Et donc là, on nous dira « Ah, mais finalement, c'est bien ce que vous faites, voilà de l'argent. » Et si on a de l'argent, on fait de la qualité, on fait plus de contenu, et là, éventuellement, on peut envisager du long-métrage. Qui serait peut-être plus facile pour l'écriture de la suite.
Oui, c'est vrai.
Parce que lui, il fait des cauchemars la nuit, parce que...
Je pense à la saison 2, de temps en temps.
Il connaît la suite, voilà. Donc si vous avez lu un peu après la saison 2, effectivement, il y a plus de personnages, on visite des grandes villes, etc. Et plus j'écris, plus c'est grave. Parce qu'évidemment, il y a peut-être quand même... Moi, j'écris des bouquins, donc moi, j'ai pas de contraintes. Voilà, et bon, enfin, on ne sait pas ce qu'on va faire dans le futur, mais pour eux, c'est pas facile. Pensez à eux un peu, quand même.
S'il vous plaît.
Alors, je pense qu'il doit y avoir quand même beaucoup de questions avec tous les fans qui sont réunis ici. Donc, bah maintenant, la parole est à vous.
Ils étaient venus pour Babar, en fait.
Bonjour. Ma question serait concernant la série animée. Est-ce que vous avez subi, ou est-ce que vous subissez une censure de la part de Canap, ou est-ce que vous-même vous vous auto-censurez pour l'anime, que ce soit au niveau visuel en évitant certaines scènes, qui se déshabillent justement, ou au niveau du vocabulaire, par rapport justement au public ciblé.
On n'a ni été censuré par Canap, ni par nous en fait.
Alors oui, Canal Plus était très étonnant d'ailleurs, parce que j'avais travaillé sur une autre série un an ou deux avant Le Donjon de Nullbuck, et Canal avait été très très présent dans l'écriture, et j'en ai vraiment fait des cauchemars, elle a fait une dépression, la meuf m'a quitté, c'était horrible. Pour Le Donjon de Nullbuck, ils nous ont laissé une liberté incroyable, c'est-à-dire qu'à chaque script qu'on leur envoyait, ils nous changeaient, un mot ou deux, parce que mais pas un mot, pas une insulte ou une vulgarité, mais quelque chose qui pour eux leur semble finalement pas très, ça marchait pas pour. Mais sinon, en termes narratifs et sur les dialogues, c'est surtout
non, nous, c'est pas limité du tout. Ouais. Mais peut-être que toi tu as vu l'épisode pilote et tu as trouvé qu'il était trop gentil, c'est ça? Non, mais en fait, le truc qu'il faut savoir, voilà, non, on a remis ce dialogue dans l'épisode pilote, mais en fait, c'est pas du tout censuré. L'épisode pilote est un des plus gentils, en fait, on peut le dire. Enfin, c'est un des moins trash. C'est pas vraiment une volonté, parce que...
C'est la raison pour laquelle c'est un pilote, c'est-à-dire qu'on peut se chercher...
Donc, ouais, mais surtout, enfin, il a été fait pilote pour des raisons techniques à la base, puisque il y a peu de décors et peu de personnages. Donc, comme on devait le réaliser en amont du process... En fait, pour nous, bah, ça coûtait moins cher que de faire par exemple l'épisode 1 où tu as de la taverne, tu as des PNJ partout, tu vas voir ton commanditaire et tout. Enfin, cet épisode, je ne vais pas le dévoiler, mais tu as de l'extérieur, tu as de l'intérieur, tu as plusieurs salles, tu as plein de personnages.
Dès qu'on multiplie les décors,
ça coûtait vachement plus cher. Donc, on a fait l'épisode 3 et quand on l'a diffusé, il y a des gens qui ont dit oh là là, mais c'est censuré. En fait, non.
Non.
Déjà, si tu l'écoutes, tu te rends compte que c'est le même langage que Nullbuck. C'est juste que quand on a remis la blague de Nyctalope, on n'a pas voulu la mettre de la même façon.
Voilà, on voulait faire une sorte de clin d'œil pour que les gens, en regardant cette blague-là, se disent pense la même chose que l'Orangeur et le Nain, en fait.
Voilà. Mais en fait, ça n'a pas été censuré, c'est juste différent. Et vraiment, dans le reste de la série, on ne retrouve aucune censure, parce que moi, justement, ne serait-ce que eux, déjà, ils avaient envie de s'éclater un peu. Et puis, moi, j'avais envie qu'on retrouve certains trucs de la série. Donc, vraiment, Canal nous avait vraiment pas embêtés, mais du tout.
Oui, c'est vrai.
C'était un des intérêts aussi de travailler.
Et pour l'écriture du pilote, c'était un peu particulier, parce qu'au départ, il fallait vendre la série. Et le producteur, Thomas Carpenter, a voulu vendre la série à travers 1 minute 30 d'animation. Donc il nous fallait écrire 1 minute 30 d'animation, donc pas cher, parce qu'il n'avait pas du tout d'argent à ce moment-là. Et on voulait utiliser cette 1 minute 30 ensuite dans un épisode qui ferait partie de la série au final. Et donc, dans cet épisode, dans cette 1 minute 30, on s'est autorisé uniquement 3 personnages. C'est la raison pour laquelle, dans cet épisode-là, la première 1 minute 30, on ne voit que l'elfe, le ranger et le nain. Et ensuite arrivent les autres personnages, c'est la suite de l'épisode, mais qui ne faisait pas partie de ce petit teaser qui nous a permis d'avoir Canal+, en fait. Donc on a construit une histoire autour de ça, mais ça s'est fait par petits bouts, ce pilote. On peut le comprendre comme ça.
Ouais, et du coup, bah, on a mis tous les éléments qui sont vraiment... Enfin, le décor et tout ça a été finalisé dedans, mais effectivement, on n'avait que 2 décors dedans.
Ouais, c'est ça.
Il y a la salle de Zangdar, enfin 3 parce qu'on a le couloir aussi.
On a le couloir,
mais ça coûtait moins cher en fait.
La salle de Zangdar n'est pas dans le titre. On ne découvre que Zangdar après la minute 30.
Ouais, mais il y en a peut-être qui ont vu l'épisode entier. Il y en a qui ont vu l'épisode, ouais. Voilà. Donc dans l'épisode entier, on voyait effectivement ça et on voit tous les persos. Mais il y en avait quand même beaucoup moins que dans l'épisode 1 de la série, mais là c'est déjà le bordel. Voilà, donc c'est ta question.
Une autre question.
Et on va l'avoir à point de
Oui, non, mais je vois bien que ça m'inquiète.
Je te dis vraiment, cet épisode-là, c'est mon préféré. Hein. Il est vraiment très très drôle. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit.
Et sinon, des personnes qui ne sont pas intéressées par des alpha poils, qui ont des questions.
Ah. Très beau costume.
Merci.
Et d'ailleurs, c'était censé être le costume du barbare de Halbeck.
D'accord.
Très réussi. Et moi, je vais poser une question justement qui n'est pas vraiment une question de barbare et qui porte sur le choix en fait, de la technique d'animation. Pourquoi choisir de faire une animation avec des personnages en 3D et plutôt qu'une quelque chose de plus traditionnel en 2D Vous avez parlé des gobelins, je sais que
c'est
beaucoup
demandé. Oui, c'est vrai qu'on a eu le choix. Y a du pour et du contre dans les deux, en fait. Le truc, c'est qu'on a le savoir-faire donné, c'est quand même plutôt le Japon, parce que ce qui a été fait en France, il y en a eu un peu, mais on ne peut pas vraiment parler de réussite d'une manière générale. Alors qu'en fait, la 3D en France, on a totalement le savoir-faire, on a les équipes, on a les gens qui connaissent. Et donc il y a vraiment des contraintes des deux côtés, hein, parce que d'après ce que j'en sais, la minute 2D, quoi que tu fasses, te coûte de toute façon le même prix. Alors que sur la 3D, on a un gros investissement de départ, parce qu'on disait qu'on doit tout créer. Par contre, tu as une faculté de réutilisation, c'est-à-dire que si tu fais 3 saisons en 3D, chaque truc créé pour chaque saison te resserre dans la suite et enrichit ce que tu as déjà fait. Alors que sur la 2D, tu es toujours obligé de dessiner de toute façon. Et au final, c'est un choix sur la durée. Et puis aussi, pour ceux qui s'intéressent à la BD ici, la BD, donc c'est de la 2D qui bouge pas. Hein. Sur la 2D, tu vas rechercher souvent plus de détails sur ton personnage et tu vas essayer de te débrouiller pour pas faire des décors trop compliqués parce que tu dois dessiner ton décor à chaque case. C'est hyper chiant. Et là, sur la 3D, on a l'effet inverse. C'est que là, on peut vraiment... faire les décors qui sont faits, les équipes, c'est absolument magnifique, quoi. Tu peux vraiment avoir des superbes décors, des ambiances lumineuses, des éclairages dynamiques et tout. Pour ce qui est dans le donjon, vraiment, de se plonger dans le clair-obscur, etc. C'est vraiment un truc qui est en plus, les jeux vidéo, dont moi je suis aussi inspiré, ont tendance quand même plutôt à être en 3D, avec ces mêmes techniques d'éclairage, et donc tu te retrouves plongé plus facilement dans le donjon en 3D qu'en 2D.
Oui, et le réalisateur Antoine Collomb, il répond souvent à cette question en disant que le donjon d'Hellbug vient effectivement du jeu de rôle, et donc du coup dans la 3D il y a cette,
volonté de refabriquer des petites statuettes à la manière de jeu de rôle.
Oui, les figurines, oui, il parlait de ça, et la façon dont elles ont été texturées, un petit peu, pour ceux qui connaissent, ça partir de figurines de... avec du brossage.
C'est un peu peint, ouais, c'est un petit côté vraiment jeu de rôle figurine.
Voilà, donc c'est un choix réfléchi et pas hasardeux. Mais voilà, donc et moi je pense que c'est bon parce que une fois que c'est bien fait, ben voilà, après on avance quoi.
Merci.
Encore une question?
Oui, bonjour, c'était sur le point, comme vous disiez, donc, à la 3D, là, sur l'inspiration. Que vous êtes souvent inspiré par le jeu de vidéo, justement lié au fait que votre BD s'appelle le donjon. Le donjon, toujours, ça nourrit parfois le lieu, ou peut-être architecturalement, comme le donjon de Vincennes, la Romantique avec une œuvre, mais qui est beaucoup moins beau quand on est à l'intérieur, c'est plus sûreté en quelque sorte, l'endroit. Et justement, en relation avec cette notion de jeu vidéo, qui a actuellement une grande expo à la tête. Et le fait, est-ce qu'il y a une relation entre vous, parce que je pense à un film 3D que j'ai vu notamment récemment qui s'appelle Alien contre Monster, ou Monstre contre Alien, et qui met en scène une invasion entre les terriens et entre extraterrestres, entre Paris, Californie et le Caire, qui est très original. Il semble, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai dû aller retourner voir le film deux fois donc avec les lunettes, on les regardera un petit peu sans lunettes 3D en même temps. Est-ce que vous tenez vraiment compte? Parce qu'il m'a semblé que chaque fois qu'on a une image en 3D, en règle globale, vous avez une chose simple, chaque image qui serait dans un lieu, vous auriez le lieu pour les enfants, il faut prendre les enfants en disant le lieu c'est sécurité, vous auriez un extracteur dans un décor par exemple, vous pouvez être sûr, il va être en 3D, il va être en première position, il considère tous les points 3D dont vous disiez avant que c'est parfois...
Ah, oui, mais on ne fait pas de relief, nous, en fait. Parce que là, vous êtes en train de parler de la 3D en relief, mais nous, on n'en fait pas.
Ah bon ?
Nous, on modélise en 3D, en fait. C'est...
Ouais, c'est en objet proprement dit.
Voilà, en fait, c'est la technique d'animation qui est la 3D, mais on ne fait pas un film en 3D où il faut aller le voir avec des lunettes, en fait.
Voilà. Pas encore.
D'autant plus que nous, on fait du programme télévision et que quasiment personne a du matériel pour voir la 3D chez soi. Et en plus, ça coûte beaucoup plus cher.
Je vais à la FNAC de temps en temps pour voir si ça marche. Ça.
Mais en fait, ouais, non, nous, on ne s'intéresse pas à ça parce que c'est très cher et c'est un petit marché. Et puis, le but du jeu, nous, c'est de vivre des aventures. Et donc, on n'aura pas d'extincteur en plein visage. Mais effectivement, ouais, c'est, on n'a pas voulu se pencher sur cet aspect du problème.
D'accord. Encore une toute dernière question.
Non.
Bon, bah, merci à vous, en tout cas. Bon.
Merci à nos deux intervenants.
Et bah, a priori, ça sort quand? Ça sort fin de l'année, début de l'année prochaine, a priori. Hein, mais ce ne sont que des estimations.
Voilà, pour le moment, donc on en est... On a avancé vachement quand même sur la série, puisque on a tout écrit, on a tout storyboardé, voilà, on a tout enregistré, les voix, on a fait les animatiques, tout est prêt, on attend juste la fin du financement, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trop ce qu'on fait, disent qu'on est bizarre. Donc ils aimeraient bien mettre de l'argent, mais après ils disent qu'ils veulent pas, puis après ils disent qu'ils veulent, et donc voilà, on rame un peu. Mais à un moment donné, quelqu'un va vraiment se décider, et là on va dire paf, c'est parti, et après on va tout faire jusqu'à la fin.
Ok, bah merci beaucoup.
Merci.